Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Jean-Pierre Le Goff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, fondateur en 1986 du club Politique Autrement, auteur d'un livre qui fait référence, toujours, qui s'appelle « Mai 68, l'héritage impossible ». Et maintenant, vous venez de faire paraître un recueil d'articles que vous avez écrit pour le débat, qui s'appelle « La gauche à l'épreuve 1968-2011 », qui vient de paraître donc chez Tempus, Perrin. Et donc, c'est autour de ce livre que nous nous rassemblons. Alors, pour vous, il existe, et on le voit dans vos différents livres, je cite en particulier « La France morcelée », qui est paru en poche, « La barbarie douce » et « La démocratie post-totalitaire ». Dans vos différents livres, vous analysez un processus de décomposition depuis les années 1970. Alors, décomposition de nos sociétés, décomposition du politique, décomposition sociale, décomposition d'individus, bref. Et plutôt que d'en revenir, ou plutôt que de prolonger une explication qui laisserait à supposer qu'il y a une mainmise du grand capital, une dictature du marché, une manipulation des médias, vous vous référez, me semble-t-il, à une approche plus tocquevillienne. C'est-à-dire que vous ne considérez pas qu'il y a de la manipulation qui vient de l'extérieur, qu'il y a de la domination qui vient de l'extérieur, mais vous analysez de près ce processus, et je vous cite dans la démocratie post-totalitaire, un processus de déshumanisation et de désagrégation qui constitue le point aveugle des sociétés démocratiques européennes aux prises avec leur héritage culturel et politique. Il y a donc pour vous un phénomène, comment dire, d'implosion de nos sociétés. Et donc, de ce point de vue-là, vous êtes bien, me semble-t-il, dans la filiation de Tocqueville qui analysait l'égalité qui conduisait, je le cite, « soit à la servitude ou à la liberté, soit aux lumières et à la barbarie, soit à la prospérité et au vice ». Et vous en arrivez, et je voudrais qu'on commence par cela, vous en arrivez à cette idée d'une barbarie douce. Alors, cette idée d'une barbarie douce, je vais vous citer donc, dans votre livre, page 201. Donc, la barbarie douce, vous la définissez comme un processus de déshumanisation qui n'entraîne pas la destruction visible de la société et des individus, mais ce processus s'attaque à ce qui donne sens à la vie en société. Il déstructure la langue et les significations, l'héritage culturel transmis entre générations. Il dissout les repères symboliques structurant la vie collective. Il rend le monde et la société dans lesquels nous vivons insignifiants et vains. Alors, quelle est donc cette barbarie douce dont vous parlez et qui semble être le bain amniotique dans lequel nous vivons sans toujours nécessairement le savoir?
Je pense qu'on peut peut-être prendre un peu la genèse pour essayer de mieux comprendre cette notion. Je dirais que la barbarie douce est née de plusieurs événements historiques. Si je me situe, puisque c'est un peu l'histoire du présent que j'essaie de faire, hein, ou du passé très récent, il y a d'une part la crise ouverte, la crise culturelle ouverte en mai 68, avec ce que j'appelle l'héritage impossible, pour le dire en quelques mots, quelques traits.
On va y revenir, oui.
Cet héritage impossible, c'est une forme d'affirmation individualiste, autoréférentielle, sans dette ni devoir, et en contrepoint, une vision des pouvoirs comme étant synonyme de domination et d'aliénation. Et enfin, troisième thème de cet héritage impossible, une vision noire et j'allais dire pénitentielle de notre propre héritage et de notre propre histoire. Encore une fois, cet héritage impossible de mai 68, ce n'est pas l'événement 68, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais cet héritage a pesé très lourd. Et il y a un moment de cet héritage qui se situe dans les années 70, qui correspond à une forme de flambée du gauchisme, à la fois gauchisme d'extrême gauche, néo-bolchévique, disons-le comme ça, mais qui va s'éteindre assez rapidement. Mais celui qui a triomphé, c'est ce que j'ai appelé le gauchisme culturel, qui remet en cause précisément et sape tout un héritage, je dirais pour faire très vite, juif, chrétien et républicain. Et là, il y a un règlement de compte historique qui ne date pas évidemment de ce moment-là, mais qui arrive à un moment dans la flambée post-68 qui vient de façon très forte dans l'actualité et qui d'ailleurs va donner des héritiers. des héritiers, beaucoup moins apparemment, moins radicaux, plus doux, plus pacifiés, plus gentils, qui vont être intégrés les médias par le culte de la dérision, mais qui vont continuer un peu ce travail de sape, si vous voulez. Alors ça, c'est un premier événement. Il faut croiser cette crise culturelle et cet héritage impossible de mai 68 avec la fin des Trente Glorieuses au milieu des années 70 et la montée du chômage de masse, qui vont produire, le chômage de masse va produire des effets de déstructuration importants sur les couches défavorisées et populaires et va mettre directement en cause l'estime de soi. Je dirais que la rencontre de cet héritage impossible de mai 68 et de ce chômage de masse est un facteur extrêmement important de, de déstructuration d'une certaine façon, de décomposition. Donc voilà un peu, si vous voulez, la genèse de cette notion.
Alors, vous vous référez dans votre livre sur cette notion de barbarie douce à un nihilisme. Nietzsche donc expliquait qu'il y avait deux types de nihilisme, soit un nihilisme actif, soit un nihilisme passif, donc une forme d'affaissement, d'épuisement, de faiblesse, d'anémie. Alors, est-ce que donc il y a quelque chose de plus profond que ce que vous dites, c'est-à-dire effectivement cette rencontre entre d'une part cette déstructuration culturelle post-68 et d'autre part cette déstructuration sociale et économique de l'individu qui ne trouve plus de travail ou la sécurité dans le travail, travail analysé en particulier par Arendt, comme un élément effectivement de ce qui définit l'homme, ce qui lui permet de se stabiliser. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond que cela, qui viendrait de ce nihilisme-là ?
Oui, je pense qu'alors là, c'est l'autre aspect qui nous remonte peut-être à une plus longue histoire que ces 40 années. C'est la question du fait que, je dirais, la France en particulier, mais aussi les sociétés européennes, ou une partie des sociétés européennes de l'Ouest, plus précisément l'Allemagne et la France, sont particulièrement concernées, mais on pourrait dire l'Italie, l'Espagne, ce qui est différent des pays de l'Est, qui ont connu le communisme et n'ont pas le même rapport à l'histoire que nous. Nous, on a un problème très particulier. Je pense qu'il faut remonter plus loin que les 40 dernières années et poser le problème de ce que j'ai appelé du post-totalitaire, c'est-à-dire le fait que c'est sur le sol européen qu'ont lieu deux totalitarismes, d'une certaine façon, le totalitarisme communiste et le nazisme. Et ça a pesé très lourd, d'une part. D'autre part, la dimension des guerres coloniales, appelons-les comme ça, dont du post-colonial, et qui fait que l'héritage des sociétés européennes, basé à la fois, encore une fois, sur la dimension, j'insiste là-dessus, chrétienne et des Lumières, a été véritablement mise en question. Elle a été mise en question depuis longtemps, mais le post-68 et le moment des années 70 l'ont particulièrement mis en question. On pense à ces nouveaux sortes d'intellectuels, entre guillemets, médiatiques, qui ont été les nouveaux philosophes, qui en ont fait un espèce de bric-à-brac à vendre sur le marché médiatique, si vous voulez, et qui a été diffusé à des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires et qui est devenu, pour les jeunes générations, des sortes de fausses évidences, qu'on le veuille ou non. Donc ça a pesé très lourd, si vous voulez. Si bien qu'on arrive à des sociétés européennes, au moins une partie des pays européens, doute profondément d'eux-mêmes. La France en particulier. Pourquoi ? Parce que la France a eu toujours, depuis longtemps, un message universel à porter au monde. Elle s'est toujours portée vers l'extérieur, vers l'exemplarité. Elle a été une référence. Et avec beaucoup d'ailleurs, peut-être, je ne dirais pas d'illusion, mais une dimension un peu mythique, etc. Bon, là, tout ça, on voit que c'est fini. Mais simplement, je pourrais dire que le mouvement de Balancier est revenu complètement de l'autre côté et que nous sommes encore, parce que maintenant ça commence à être contradictoire, fort heureusement, et ça l'a toujours été, mais nous sommes encore dans une histoire pénitentielle où l'Europe, et à travers elle, je dirais, l'héritage occidental, est coupable de tous les maux vis-à-vis des peuples qu'elle a à la fois dominée, et je dirais que c'est à la fois l'histoire ancienne des guerres, mais l'écologisme, non pas l'écologie comme telle, excusez-moi, on rajoute une couche. Parce que nous n'avons pas simplement dominé, exploité les peuples, mais nous avons aussi détruit la nature, avec tout ce courant diffus d'écologisme qui nous dit que nous avons perdu un lien premier avec la nature, et d'ailleurs heureusement, ce qui a quand même permis le progrès économique et social, mais nous avons perdu ce lien précieux premier d'une alliance avec la nature que les autres peuples ont conservé et que certains nous offrent aujourd'hui en modèle alternatif dans la plus grande confusion. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce nihilisme, il est lié aussi. La question qu'il faut se poser, si je remonte même plus loin, c'est que la dynamique de la modernité ouverte par l'Europe à un moment donné, qu'en est-il aujourd'hui de son élan ? Et je pense que j'ai le sentiment qu'on est précisément arrivé à un point limite d'une décomposition. Encore une fois, c'est une hypothèse, mais les deux événements, là, si on prend les 40 dernières années, pour moi, c'est le point extrême. Mais en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, plusieurs événements nous incitent à revenir sur un certain nombre de choses et à reconsidérer cette façon que nous avons eue de nous considérer nous-mêmes, ce que j'appelle la perte de l'estime de soi. Peut-être, et c'est ce que j'espère, grâce à un certain nombre d'événements historiques qui sont en particulier la crise économique, mais aussi le retour des guerres. Il y a une espèce de bulle angélique depuis 30-40 ans qui aujourd'hui est percutée par différents éléments. Et ce dont on peut espérer, c'est que la crise dans l'ensemble de ses dimensions soit une épreuve du réel.
Alors, juste parce qu'on va effectivement venir dans une deuxième partie sur les éléments relatifs aux épisodes dans votre livre, qui nous rassemble, donc la gauche à l'épreuve, vous mettez bien en évidence les différents moments, surtout à gauche, de cette décomposition progressive. Mais je voudrais juste revenir sur cette notion donc de barbarie douce, donc de décomposition, de déshumanisation, pour reprendre vos termes. Votre maître, donc Claude Lefort, mettait bien en évidence qu'il y avait quelque chose de particulier dans la démocratie, considérant que la démocratie était à la fois un lieu vide, d'une part, et deuxièmement, que la démocratie agissait pour dissoudre les repères de certitude. Est-ce que cette démocratie douce, pour se référer à la fois à Lefort et à la fois à Tocqueville, n'est pas, donc cette désaffiliation, n'est pas inhérente à la démocratie et à ce processus de la démocratie tel qu'il s'est développé progressivement ?
La fin des repères de certitude, au sens de Lefort, est évidemment inhérente à la démocratie, de même que la sortie, non pas du religieux comme tel, mais de l'englobement du social et du politique par le religieux est inhérent à la démocratie et fait partie de la dynamique de la modernité. Donc ça, si vous voulez, pour moi, c'est un acquis, c'est un fait. La question qui est posée à partir du moment où le point de certitude, pour reprendre les expressions de Claude Lefort, ne se situe plus dans un lieu transcendant, eh bien on peut aller le chercher dans l'immanence de l'histoire ou dans l'immanence, j'allais dire, de type hegélien ou marxiste de l'histoire en marche, y compris dans sa dimension économique. Le point de certitude n'est plus dans la transcendance, il est dans l'immanence. Et là, on a, si je prends la conception du totalitarisme chez Claude Lefort, un renversement possible à partir de ce qu'il appelle l'indétermination démocratique. Simplement, chez Claude Lefort, il y a une limite, à mon avis. Le lieu vide, il est d'une certaine façon toujours rempli. Quand on regarde l'histoire, j'allais dire, non pas concrète, mais quand on prend une période historique donnée, ce lieu vide est un arrière-fond de la démocratie, mais il y a aussi une chair de l'histoire. La démocratie n'est pas autocréation d'elle-même, à partir de rien. Elle est elle-même le fruit d'une histoire. Et avant la démocratie, il y a la nation. En Europe, comment poser la question de la démocratie sans poser la nation ? Donc elle n'est pas autoréférentielle. La façon dont, autour des années 70-80, la France, mais aussi beaucoup d'autres sociétés européennes, après la critique du totalitarisme, qui était quand même un moment fort, qui est arrivé très tard à gauche, parce qu'à droite, il était déjà là, d'une certaine façon. Mais la façon dont on s'est réconcilié avec la démocratie a été de façon, je dirais, relativiste. C'est-à-dire, on a effectivement rompu avec l'idéologie, les points de vue de certitude, mais pour arriver à une sorte de relativisme culturel. Donc l'antitotalitarisme à gauche n'a pas débouché sur une certaine revalorisation de la politique, mais au contraire, sur un relativisme culturel, à une nouvelle forme d'individualisme, qui, je dirais, limite la politique à l'état de droit et aux droits de l'homme, mais dans une logique, encore une fois, l'état de droit et les droits de l'homme me semblent absolument essentiels, mais dans une logique très individualiste. C'est-à-dire, je ne vais pas reprendre le mot d'ordre de 68, mais l'État comme agent de répression toujours possible à mon égard, ce qui est effectivement une possibilité, mais le rapport à la politique va se limiter à ça. Et on va voir d'ailleurs arriver la montée en puissance de l'éthique remplaçant la dimension du politique. Encore une fois, je pense que l'éthique est très importante, mais elle ne peut pas englober le politique. Et il y a un phénomène de dépolitisation des sociétés et de déculturation historique des sociétés qui arrive à ce moment-là.
Donc on a vu, effectivement, pour reprendre un peu dans le processus tel qu'il s'est progressivement mis en place, donc dans l'analyse que vous faites de cette décomposition, vous avez indiqué au début, effectivement, mai 68, les trois points, donc l'individu, le pouvoir et l'héritage. Bon. Donc il y a quelque chose qui, effectivement, dérive de l'individu sur l'individualisme, du pouvoir conçu comme élément de domination, et donc le risque de remettre en cause l'autorité, le principe d'autorité, et troisième chose, le fait de se couper effectivement de son propre héritage. Donc ça, c'est l'élément, c'est la matrice d'origine, d'une certaine façon. Voilà. C'est ce que vous avez analysé dans vos différents livres, et en particulier donc dans mai 68, l'héritage impossible. Alors, quelle est l'étape d'après ? L'étape d'après, vous dites, c'est 84. Alors, 84, qu'est-ce qui se passe en 84 et en quoi est-ce que cette réconciliation de la gauche et du réel, pour le voir un peu de l'extérieur, est, selon vous, une forme de trahison à la fois de la gauche et à la fois de cette véritable réconciliation que la gauche aurait pu faire ou serait susceptible de pouvoir faire ?
Je pense que ce qui s'est passé en 1984 n'est pas simplement ce qui a été dit sur le tournant illibéral ou le changement de politique économique. Ce changement de politique économique, qui se discute comme tel, du reste, qui, à mon avis, est un sujet en soi, s'accompagne d'un grand retournement non assumé sur le champ politique et culturel. Je m'explique. En 1983-84, ce que j'ai appelé le tournant de la modernisation, arrive à un moment où la doctrine de la gauche est en morceaux. Mais je dirais, d'une certaine façon, que le paradoxe de la victoire de Mitterrand en 1981... c'est une victoire politique sur base de défaites culturelles déjà là, issues du post-68 et de la critique antitotalitaire. Simplement, je dirais que les socialistes ne se sont pas encore aperçus de ça. Et ils sont élus sur un programme, ils l'ont changé de tout au tout. Et à partir de 83-84, se met en place une façon extrêmement déconcertante de gouverner, qui d'ailleurs va être reprise ensuite par la droite d'une certaine façon, parce que l'hypothèse que je fais dans mon dernier livre, pour le dire très directement, c'est que pendant ce quart de siècle, la gauche était à l'avant-garde de cette décomposition et que cette décomposition aujourd'hui est transversale à la droite et à la gauche. Mais à l'époque, en 1983-84, on a ce phénomène d'un président, c'est ni, je sais pas, c'est ce fameux interview à Libération avec Serge Juli, et nous avons changé de politique sans changer, tout en changeant, mais pas vraiment. La ligne reste la même tout en n'étant pas la même, c'est-à-dire commence à se mettre en place ce que Castoriadis avait vu à propos du marxisme décomposé, la pensée chewing-gum et la langue caoutchouc, disait-il de façon très polémique. Mais là, ça va se développer. Et un pouvoir informe qui dit tout et son contraire, nous n'avons pas changé de politique. Et ce tournant à la fois de la politique économique n'a jamais été assumé par le Parti socialiste, d'une part. D'autre part, il est passé d'une doctrine socialiste qui continuait de façonner, j'allais dire, l'identité de nombre de militants qui avaient eux-mêmes beaucoup évolué, à la fin de cette doctrine, pour passer à ce que j'ai appelé le modernisme branché. Dans la crise de la doctrine socialiste, dans ce vide va être rempli par l'héritage impossible de mai 68 comme substitut à la crise de l'ancienne doctrine issue du 19e siècle. Donc on a un tournant libéral sans jugement de valeur, parce qu'on pourrait discuter sur ces politiques économiques, qui est pris à ce moment-là, et un tournant, j'allais dire, culturel. Et tout ça paraît de soi. C'est aussi le moment 83-84 où François Mitterrand, le prince de l'ambiguïté, après avoir été élu, après avoir pris quand même l'appareil du Parti socialiste, va s'entourer de communicants. Le règne de la communication est extrêmement important. À ce moment-là, ces gars-là, il y a ce qu'on a appelé le sorcier de l'Élysée qui ensuite va aussi conseiller Jacques Chirac. Bon. Et là, on voit se mettre en place un tournant, un nouveau tournant, où la politique elle-même se décompose, si vous voulez, avec trois traits, ce que j'ai appelé le pouvoir informe, c'est-à-dire un pouvoir qui dit « nous avons tout essayé, mais nous ne pouvons plus grand-chose », et qui va désorienter la société, puisque c'est le rapport de la société à ses institutions, à ses pouvoirs, qui donne à ce moment-là la figure de l'incohérence et de l'impuissance. Donc la société est désorientée. La langue caoutchouc, qui dit tout et son contraire, où la logique de la communication joue à fond, hein, avec les petites phrases, le changement, l'important, c'est d'aller de l'avant pour aller où, on ne sait pas où. Et ça, ça s'appelle, le troisième trait, la fuite en avant. Et je pense que la façon dont s'est construite l'Union européenne participe à ce moment-là de cette fuite en avant. Non pas que je sois évidemment contre la construction de l'Union européenne, encore s'agirait-il de savoir sur quelle base et sur quel héritage. Mais là, il y a véritablement un point de fuite, ce que j'ai appelé le modernisme par ce point de fuite. Et la droite, d'une certaine façon, parce que je m'intéresse à la gauche puisque je viens de cette famille de pensée, mais je pense qu'il se passe la même chose à droite avec l'idée de nation, avec ses anciens repères. Bon, je ne suis pas un historien de la droite, je connais beaucoup moins la droite d'une certaine façon que la gauche.
Vous avez travaillé un peu sur la droite, effectivement, au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy, et les articles qui lui sont consacrés sont dans La France morcelle.
Pour moi, Nicolas Sarkozy représente la figure typique de ce que j'ai appelé, encore que ce mot, il faudra en discuter, postmoderne. Le président postmoderne, sorti de l'histoire, où on a affaire, et pour moi, Ségolène Royal était le répondant à gauche de cette figure qui est un peu la figure du manager individu façonné pour l'essoreuse à idées médiatiques avec un type d'égotisme très particulier, affichant sans retenue son moi, ses goûts, ses valeurs, ses préférences, et sans vision historique. C'est-à-dire, ce qui me frappe beaucoup, c'est la déculturation historique, la juxtaposition d'une logique compassionnelle et victimaire, avec une série de mesures, sans véritablement réinsérer ces mesures ou même ces réformes, qui chacune pouvant du reste se discuter, mais l'incapacité à réinsérer ces réformes dans une vision historique, qui la relie à ce cher et vieux pays, comme on disait autrefois, et qui la relie à l'avenir, surtout. Et là, je pense qu'on est dedans. Ce qui me frappe beaucoup de tous les candidats, c'est cette incapacité. Et là, ce n'est pas forcément très facile, parce qu'on peut toujours en faire le reproche aux politiques, mais pour moi, le politique est porté aussi par un ethos de la société. Et donc, il faut toujours mettre en parallèle le politique et la société. Il y a certes un volontarisme politique, une verticalité de la politique en France particulièrement, qui compte beaucoup. Mais cette verticalité, elle ne peut pas non plus se couper de l'état de la société. Or, pour moi, le problème, c'est le point limite où nous sommes arrivés de l'éthos de la société démocratique aujourd'hui, en France en particulier, avec des éléments, je dirais, d'espoir, parce que je pense qu'il y a des... L'hypothèse que je fais, que j'avance, c'est que même si nous n'en voyons pas aujourd'hui les signes manifestes, notamment dans le domaine politique, à terme, à mon avis, une recomposition politique, on le voit, aura lieu, me semble-t-il.
Nous allons observer une petite pause musicale et nous reprenons donc juste après notre entretien avec Jean-Pierre Le Goff. Nous nous retrouvons avec Jean-Pierre Le Goff autour de ce livre, donc La gauche à l'épreuve. Et nous avons vu dans cette première partie qu'effectivement, il y avait à partir de 1984, donc cette conciliation entre la modernité et la gauche, une évolution avec trois caractéristiques que vous avez indiquées, donc le pouvoir informe, la langue caoutchouc, et puis la fuite en avant. Et je voudrais rebondir sur le dernier point que vous avez soulevé. Et c'est effectivement un élément qu'on pourrait mettre en critique à l'égard de votre livre. Vous dites bien, et c'est ce que vous disiez juste avant, qu'effectivement, la politique est le reflet d'évolutions profondes de la société. Vous parlez de crise de l'avenir. Je me souviens d'un article de Christophe Pomienne qui s'appelle « La crise de l'avenir », publié par vous au débat. Cette perte de l'estime de soi dont vous parlez, vous consacrez un chapitre là-dessus. La perte de l'histoire, du sens de l'histoire, de la transmission. Bon. En quoi est-ce que ce que vous reprochez à la politique, et à la gauche en particulier, est légitime, au sens, est-ce que c'est la gauche qui est à l'origine de cela, ou est-ce que ces évolutions très profondes qui laisse à supposer que nous sommes dans un individualisme désaffilié, je crois que c'est une de vos expressions, finalement n'a été qu'accompagné bêtement, un peu en bricolage, par une gauche au pouvoir qui n'a fait que reprendre des éléments pour être dans l'air du temps dont vous parlez.
Je pense que la gauche a joué un rôle d'avant-garde. C'est-à-dire qu'elle l'a fait parce que sur fond de crise de sa doctrine et crise de son programme politique pour lequel elle avait été élue, mais qu'elle ait véritablement été à l'avant-garde. Mais là, il faut remonter plus loin, c'est-à-dire que ce que j'appelle le gauchisme culturel. Le gauchisme culturel ne date pas évidemment des années 80. Il y a même dans notre tradition culturelle, ce qui fait aussi peut-être un aspect de notre spécificité, un nihilisme, une critique de nos propres valeurs. Nihilisme, on en parlait tout à l'heure, qui a eu un moment son heure de dynamisme, aussi paradoxal que ça puisse paraître, qui pouvait être porteur d'une critique et qui avait une dynamique. Pourquoi ? Il avait une dynamique parce que en face de ce nihilisme existaient des tabous, des interdits. Donc la dimension de la transgression, la dimension de la remise en cause avait, je dirais, sa propre logique interne. Dans le domaine artistique, je ne vais pas citer Dada, les surréalistes, etc. Mais disons que ça a pesé très lourd. Si vous prenez l'après-guerre, et un peu avec ce qui s'est passé dans un microcosme qui s'appelait Saint-Germain-des-Prés, le quartier latin, mais qui pesait très lourd intellectuellement à un moment donné, on a retrouvé cette dimension critique et cette dimension bohème. La question qui se faut. Donc ça fait partie aussi de notre héritage, ne l'oublions pas. Ce qui peut avoir des dimensions, je dirais presque, si je poussais à l'extrême, salutaires par rapport à ce qu'on appelait des dimensions institutionnelles un peu ossifiées, des bureaucraties, du moralisme, non pas la morale comme telle, mais le moralisme. Donc il y a eu cette contradiction qui donnait une vie, des conflits qui me paraissaient participer de la dynamique démocratique, même si on n'adhérait pas forcément au nihilisme qu'il pouvait y avoir derrière. Cette dimension-là va changer de signification à un moment donné quand elle va passer d'une part à une échelle de masse. Elle va passer à une échelle de masse précisément dans le mouvement post-68-art. Et passant à une échelle de masse, on a affaire à une forme de banalisation. C'est en ce sens, banalisation, qui va passer à terme par les médias, par les grands médias audiovisuels. Vous avez un certain nombre de chaînes qui nous joue la unième version de la transgression dans une société devenue pernicieuse. C'est les mutins de Panurge tous les jours à la télévision et qui ont l'impression de transgresser alors que c'est le nouveau conformisme ambiant. Paradoxalement, ce qui était à un moment donné anticonformiste et qui l'était réellement, et qui pour les acteurs de l'époque supposait de payer le prix de cette transgression. C'est-à-dire les révolutionnaires, ou j'allais dire les gens un peu bohèmes, savaient qu'ils ne pouvaient pas, excusez-moi l'expression, avoir le beurre et l'argent du beurre. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une autre étape de tout ça, puisque c'est la transgression sans le prix à payer, la transgression sans le tragique qui va avec. C'est pour ça qu'une partie des 68-arts, la version qui est donnée de 68, c'est la version des vainqueurs. C'est la version de ceux qui, à un moment donné, ont rejoint François Mitterrand. Mais on a oublié le tragique de tous ces acteurs de 68 perdus. Et on a oublié les enfants des 68-arts, qui, à mon avis, ont été les victimes principales de ces transgressions et de cette insouciance qui est allée assez loin à un moment donné. On n'en a retenu que de la victoire des 68-arts reconnus dans les médias et dans les institutions au moment du mitterrandisme triomphant. C'est une histoire racontée par les vainqueurs. Elle comporte évidemment sa part de vérité, mais elle ne dit rien sur ce qui s'est passé entre 68 et 80, qui est passé par des moments de rupture et de drame, y compris à l'intérieur de ce mouvement.
Dans votre livre, et je voudrais qu'on approfondisse cela, dans votre livre, vous êtes assez... Vous avez un sens de l'urgence, un sens de la catastrophe. Je lis la quatrième de couverture, à la fin. Refusant la fatalité, l'auteur, donc vous, en appelle à un retour de la politique avant qu'il ne soit trop tard. Alors... ma question est la suivante. Bon, on voit bien effectivement dans votre livre ces différents éléments d'évolution, la critique que vous faites du politique comme en transparence avec les évolutions de la société et les évolutions de la société en transparence du politique. Mais finalement, qu'avons-nous à craindre ? Vous avez une vision qui est peut-être une vision d'une histoire tragique, qu'il y aura du tragique quelque part, etc., etc. Mais finalement, n'avons-nous pas laissé tomber tout cela au profit d'une histoire qui est celle, effectivement, post-68, heureuse, sans contradiction, où l'individu peut s'affirmer au détriment de la société. Nous vivons sans société, sans histoire, tout seul, isolé. Et à la limite, tant mieux, on se passe de tous les carcans d'autrefois. Alors qu'est-ce que vous avez contre cette vision-là, qui est celle, effectivement, un peu la vulgate ambiante d'une société post-historique et qui serait ravie de se dégager du fardeau d'un passé ô combien lourd et d'un avenir qui promettait des choses qu'il ne peut plus promettre?
Oui, alors là, je crois que vous avez raison. Il y a deux hypothèses possibles sur la situation présente. Soit nous sommes effectivement entrés dans une postmodernité, ce que je crois en partie, mais sans drame et véritablement sans tragique. C'est-à-dire, oui, acceptons cette période. D'ailleurs, on insistera sur l'ambivalence de la démocratie. Il y a toujours deux côtés. D'ailleurs, ce qui permet de vous adapter au type d'interlocuteur que vous avez en face. Vous pouvez toujours dire il y a un bon côté, un mauvais côté, etc. Effectivement, il y a toujours des ambivalences dans les évolutions démocratiques. Simplement, je pense qu'on est arrivé à un point véritablement limite, si vous voulez. Donc moi, je pense que contrairement au discours gentillé, hédoniste gentillé, je dirais pacifiste, qui s'est développé depuis les années 80, et notamment à travers, non pas les droits de l'homme, mais les droits de l'homisme, hein, et cette éthique, qui n'est même pas l'éthique de conviction aujourd'hui, je dirais que c'est une éthique de la bonne intention et des bons sentiments. Aujourd'hui, je crois que tout ça est en train de voler en morceaux, et d'une certaine façon, je ne peux pas paraître pessimiste, mais il y a des éléments qui vont contre ça. Eh bien, je crois qu'on est peut-être en train de sortir de cette bulle. Alors, ça renvoie à quoi? Pourquoi je suis critique par rapport à ça? Ça renvoie, finalement, et je ne pense pas qu'on puisse le mettre de côté, à une option de type anthropologique. Comment évacuer l'option de type anthropologique? Quand on analyse la situation historique ou quand on analyse la société, on peut le faire de façon, ce que j'appelle, les rhéteurs de la postmodernité. C'est-à-dire les commentaires du commentaire du commentaire, où n'importe comment la société bouge, tous nos anciens schémas ne peuvent plus nous dire quelque chose sur ce qui se passe, ce qui revient à dire que le passé est devenu complètement obsolète. Non pas le passé comme tel, puisqu'il est bien passé, mais l'héritage. Alors moi, je raisonne, si vous voulez, un peu, une optique un peu à la Peggy, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas rupture, mais recreusement, auquel je rajouterai une dimension que Paul Ricoeur appelait les potentialités inaccomplies du passé. C'est-à-dire, quand nous revisitons le passé en termes d'héritage culturel, nous sommes d'abord évidemment amenés à faire un tri, ça me semble évident, mais aussi nous sommes amenés à regarder avec un œil neuf cet héritage. Or, le pari que je fais, qui est un pari volontariste, c'est que, ce que dit aussi Hannah Arendt à sa façon, nous ne retournerons pas en arrière. Mais le positif de la rupture, de la crise dans laquelle nous sommes, c'est que nous pouvons découvrir des choses en regardant le passé qui étaient déjà là et que nous n'avions pas forcément vu dans la tradition traditionnaliste, disons. Et c'est un pari, je veux dire, un peu positif, puisque je vais pas reprendre la formule attribuée à Gramsci, mais pessimiste de l'intelligence. Pour moi, on dit « vous n'êtes pas optimiste ». Enfin, moi, je voudrais savoir, l'intelligence, est-ce qu'elle est optimiste ou pas? Ça n'a pas de sens pour moi. Par contre, vous pouvez être très bien pessimiste de l'intelligence et optimiste de la volonté. Et ce que j'essaie de faire avec, à ma modeste place avec le club de réflexion, c'est ça. Faire en sorte qu'il y ait une réappropriation et de faire redécouvrir, notamment retisser le fil des nouvelles générations dans cette décomposition. Puisque je pense que, c'est aussi une hypothèse que j'avance, s'il y a bien eu rupture entre la génération 68, les 68ards et leurs pères, la rupture qui est amorcée aujourd'hui me paraît d'une autre ampleur.
Alors quel est ce risque, justement? Vous parlez d'une anthropologie, donc une anthropologie, ça suppose quoi? Ça suppose un bloc symbolique, ça suppose quelque chose auquel on est attaché, un ordre social, une cohérence d'idées, des idées qui surplomberaient l'individu et qui s'imposeraient à lui. Est-ce que tout ça, d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'on n'en est pas débarrassé à tout jamais au profit d'un individu libre qui choisit ce qu'il veut, quand il veut, qui n'est pas assigné à résidence, à identité, à un passé qui serait le sien sans être le sien. Vous voyez, pourquoi est-ce que tout cela supposerait qu'effectivement il faut sortir de cette liberté de l'individu quant au choix qu'il fait de sa propre identité au profit de quelque chose qui peut être considéré par d'autres, le discours que vous tenez, un peu réactionnaire sur un ordre social, sur quelque chose qui tiendrait l'individu?
Il n'est pas réactionnaire dans le sens où il pense qu'on pourrait revenir en arrière dans des points de vue de certitude ou dans des mondes clos, ça je ne le crois pas. Mm-hmm. Par contre, il est conservateur au sens de conserver ce à quoi on tient et qui nous semble essentiel comme repère structurant les identités individuelles et collectives. En ce sens-là, oui, moi je suis conservateur, non réactionnaire, et en même temps je me sens très moderne et démocratique sous certains aspects, si vous voulez. C'est ce paradoxe, mais c'est comme ça. Alors sur la question d'abord de l'anthropologie, je pense qu'il y a une dimension essentielle. Je commencerai par le rousseauisme. Il y a un rousseauisme post-68-art qui existait, qui n'est pas d'ailleurs, qui ne commence pas en 68. Il faut revenir même bien en amont au moment de la Révolution française. Je cite à un moment donné Saint-Just pour le dire en quelques mots. Le mal est extérieur à l'intériorité, extérieur à l'homme, et il est dans les mauvaises institutions. Si nous changeons de société, si nous changeons les institutions, nous aurons un homme bon. Bon, ça c'est... Et avec ça, c'est la négation du tragique qui est inhérent à cette conception-là, qui me semble absolument essentielle. Et là, on touche à un vieux fond culturel. Je ne dirais pas pessimisme à droite, optimisme à gauche vis-à-vis de l'homme, mais il y a eu ça. Mais ça remonte aussi à une forme d'optimisme des Lumières, contrebalancée par une conception chrétienne liée au péché originel. Je pense qu'on est dans un moment historique où ces clivages existent encore, mais on devrait être capable, je dis on devrait être capable d'aborder cet héritage-là en toute liberté, en croisant précisément la dimension d'anthropologie chrétienne avec l'anthropologie des Lumières. Et je pense que ce dialogue et cette réappropriation est quelque chose qui peut, si on sait pédagogiquement la faire valoir, intéresser les jeunes générations. Parce que je pense que malgré le discours gentillet, ce que je peux voir autour de moi, notamment parlons de la famille, qui est un élément, l'école et la famille, je dirais que l'héritage impossible de mai 68, les torpilles, si je puis prendre cette image, ont porté, elles ont fait exploser ces deux institutions centrales dans la transmission. L'attaque était portée au cœur, si vous voulez. Eh bien, dans la famille, par exemple, quand vous entendez ce qu'on appelle les familles dites monoparentales ou recomposées, je vois un discours relayé constamment par les médias, mais en même temps relayé par les ambulances que sont, excusez-moi, les psychologues et les psychanalystes, pour une certaine catégorie de la population qui a la culture adéquate et les moyens et les réseaux pour, quand il y a des problèmes, aller à l'infirmerie sociale que représentent les psychologues et aujourd'hui sous une forme comportementaliste et non plus psychanalytique. Bon. Pour la grande masse de la population, et notamment les couches les plus défavorisées qui n'ont pas ça, c'est des véritables drames. On ne veut pas reconnaître, on a mis du temps à reconnaître les phénomènes de violence, de déstructuration des jeunes. Tous les jours, vous avez des phénomènes de drame, de pères qui tuent leurs enfants. On dit, mais la gauche a eu beaucoup de mal à aborder ces questions-là. Ce n'est qu'une question économique et sociale. Non, c'est le mélange d'une question économique et sociale avec une déstructuration anthropologique. Et donc, moi, je pars de l'idée que malgré le discours gentillet tenu par une petite catégorie de la population, qu'on a appelé les bobos, il faudrait voir ce qu'on met derrière, mais qui vit dans un monde de l'entre-soi et qui dénie où, bon, finalement, manger à table avec l'amant de sa femme, on est tous copains, etc. Ça existe dans un milieu bohème. Ça a été promu comme valeur universelle. Or, je veux dire, là aussi, on voit que ce n'est pas vrai. Et il y a beaucoup de souffrance. Je ne crois pas, par exemple, on n'est plus jaloux. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de tragique. Quand vous discutez avec ces gens qui sont concernés par ça, si vous les connaissez bien, vous voyez le tragique qu'il y a derrière. Pour moi, je pense qu'il y a un phénomène de déni médiatique. Et voyez ces émissions ahurissantes où on fait témoigner les enfants de parents divorcés à la télévision en direct par des sortes de battleurs de foire qui sont reconnus et légitimés par les grands médias audiovisuels. Personne ne proteste. On appelle les téléspectateurs à témoigner sur l'inceste. On est arrivé à une forme là de nihilisme, à mon sens, qui est présente dans les médias et qui est arrivée, là aussi, à un point limite. On ne peut plus aller beaucoup plus loin que ça. Donc, moi, l'hypothèse, c'est que ce n'est pas vrai. C'est que, contrairement au discours gentil que nous tient depuis 30 ans, on le voit. On a nié les phénomènes de violence et de déstructuration des jeunes des quartiers défavorisés. Il se trouve que, dans mes parcours de vie professionnelle, j'ai eu affaire à eux dans les années 80. Et je voyais bien l'impuissance que nous avions par rapport à un phénomène qu'on appelle des socialisations, mais qui renvoie au premier lieu de ce qu'on appelait autrefois les communautés d'appartenance première, qui était la famille. Et quand le jeune arrivait à l'école, il était déjà d'une certaine façon éduqué dans la famille, dans le quartier, dans un ethos, d'un lieu d'habitation. qui s'appelait le village, le bourg, etc. Bon, tout ça, on ne reviendra pas non plus à ces modes d'habitation. Mais ce que je veux dire par là, voyez par exemple ce qu'on demande à l'école. C'est quasiment une mission impossible, puisqu'on lui demande, on reporte plus exactement sur l'école un ensemble de missions qui ne spécifient plus sa finalité particulière. Il faut lutter sur la drogue, la socialisation, la civilité, minimum, même pour les jeunes, apprendre à se moucher, enfin des choses. Moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes dans les enseignants. Et on leur demande tout ça. L'école ne peut qu'imploser sous le poids des missions impossibles qui lui sont demandées et la dimension spécifique de l'enseignement avec une dimension républicaine qui doit rester. Il y a à la fois ces dimensions égalitaires, mais n'oublions pas que l'école républicaine, c'est aussi les élites issues du peuple. Eh bien, cette exigence-là est écrasée, je veux dire, par rapport à ce travail qui ne se fait plus à l'intérieur même de la société, de la famille, du quartier, des solidarités collectives, y compris dans le milieu ouvrier. Ce qui existait aujourd'hui dans ce qu'on appelait les banlieues, on oubliait qu'autrefois les banlieues, et même certains bidonvilles, vous pouviez avoir d'une certaine façon une inégalité sociale, mais vous aviez des liens de solidarité. C'était des lieux de socialisation par lesquels on structurait aussi son identité avec une certaine fierté d'appartenir à un monde. Eh bien, tout ça, nous sommes confrontés aujourd'hui à l'érosion de tout ça et on demande à l'école et aux enseignants qui n'en peuvent plus de faire tout ça. Ce qui est... Donc là aussi, il y a une fuite en avant. Mais encore une fois, je ne crois pas que mon propos est difficile à entendre parce que d'une certaine façon, il n'y a pas une solution qui passerait simplement par le volontarisme politique. Il suppose une forme de, j'allais presque dire, de patience historique et de reconstruction au sein même de la société, en sachant que cette reconstruction peut être longue. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'entamer. Et ce que je critique, y compris dans un certain petit milieu, c'est cette façon de ne pas se couper des évolutions en faisant du surf dessus, si vous voulez. Et donc, en présentant un visage de relativisme culturel assez lisse, là aussi, on voit que ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer.
Oui, donc ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il y a eu, à partir de ce gauchisme culturel, la diffusion dans une certaine élite culturelle, à la fois d'un optimisme, béat, et d'une liberté, libéralisme, et que, pour le dire comme cela, pour reprendre un peu ce que vous disiez, quand les bobos boivent l'euphorie, c'est le peuple qui trinque tragiquement.
Voilà. Absolument.
Et que ce tragique que vous mettez en avant, eh bien, l'élément qui laisserait à supposer que nous sommes à la fin d'un cycle, d'une part, et que deuxièmement, il doit y avoir, ou il peut y avoir, ou il devrait y avoir, une recomposition ou un ressort, enfin quelque chose comme ça. Alors justement, c'est ça ma question, c'est quel est ce point, ce fond de la piscine qui laisserait à supposer que quelque chose ressort. Est-ce que c'est la religion, et je renvoie nos lecteurs à ce bel article donc qui s'appelle « Le fil interrompu des générations » où vous cherchez à mettre en avant, non pas la foi, mais les valeurs anthropologiques présentes au sein de la religion. Est-ce que c'est, pour le prendre du côté tragique, quelque part un retour d'un pouvoir fort autoritaire qui va mettre un peu de l'ordre là-dedans et qui sortira, comme disait le général de Gaulle, de la chienlit ? Ou est-ce qu'il y aurait, donc dans les trois options possibles de l'avenir, un électrochoc démocratique, une prise de conscience qui n'est pas seulement politique, et vous l'avez dit, mais aussi sociétale, comportementale, culturelle, qui laisserait à supposer que la démocratie en elle-même, la République en elle-même, se ressaisit pour redonner sens à elle-même, pour exister d'une certaine façon.
C'est du moins ce que j'espère, mais je ne suis pas maître de l'histoire. C'est-à-dire, pour moi, l'histoire humaine... Je ne me situe pas en position de surplomb et dans une logique de crise, de croissance continue de la démocratie. Je pense qu'il y a un risque dans cette crise que nous vivons, qui d'ailleurs, sous beaucoup d'aspects, ressemble à, par certains de ses traits, à l'avant-guerre, sans analogie historique. Le retour possible dans une France désorientée, dans une Europe qui s'effondre, des recours autoritaires, ça je ne l'exclus pas. Cela dit... Je pense que l'autre aspect, il ne faut pas simplement se focaliser vis-à-vis de cette possibilité sans voir que cette possibilité-là est alimentée par une forme de nihilisme en contrepoint et ces deux grands courants se donnent en spectacle de fond à l'intérieur aujourd'hui, j'allais dire, des médias, mais plus largement de la société. Hein. Avec les bien-pensants d'un côté, je dirais que l'un a besoin de l'autre pour exister dans un espèce de cercle délétère. Alors évidemment, je veux dire, mon espérance, c'est que cette prise de conscience ait lieu, il y a des forces, à mon sens, à l'intérieur de la société. Je dirais, je poserais la question de la façon suivante, un peu large. Où sont les réserves d'humanité? Je pense qu'elles existent et qu'il ne faut pas trop se laisser prendre à ce qui s'est passé depuis 30 ans, c'est-à-dire la façon dont un petit milieu a tenu l'espace public confondu avec l'espace médiatique. C'est-à-dire l'héritage impossible de mai 68 et les héritiers de mai 68 ont pénétré massivement les moyens de communication modernes, l'édition, les médias, et qu'ils ont même fabriqué, j'allais dire, des héritiers, mais des héritiers qui deviennent dérisoires, encore une fois aujourd'hui, hein. Et qu'il ne faut pas prendre cela comme le reflet de la société. Aujourd'hui, il y a un grand fossé, pas simplement avec une partie simplement des élites politiques, parce que je pense que dans le champ politique, fort heureusement, il y a des hommes et des femmes de conviction, mais il y en a aussi dans la société, et je prendrai un certain nombre de métiers qui sont confrontés à l'épreuve du réel. Parce que pour moi, les réserves d'humanité vont de pair avec des gens qui sont confrontés à cette épreuve par leur activité professionnelle, par leur engagement. Je ne dirais pas, par exemple, les associations. Je crois qu'il faut faire la distinction entre des associations qui ne vivent que par des subventions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de générosité par ailleurs. Et je pense qu'il y aura une épreuve de vérité, si vous voulez, du point de vue de l'engagement associatif, parce qu'on parle beaucoup de la dynamique citoyenne, etc., notamment à gauche. Il y en a, fort heureusement, notamment dans le domaine caritatif, même de la Croix-Rouge, des choses d'humanitaire. Il y a une générosité, qui existe, y compris chez des jeunes, dans cette dimension-là. Alors bon, ce n'est pas évidemment tout le tissu associatif, parce qu'il y a ce que j'appelle tout un tissu associatif que j'appelle cultureux, qui n'est pas la culture au sens classique, mais qui serait plutôt de l'animation socio-culturelle dans une situation de chômage de masse et de villages et de villes désertifiés de leurs anciennes activités économiques, si vous voulez, et subventionnés par des collectivités territoriales pour des productions artistiques dont la qualité mériterait d'être discutée. Donc je mets cela de côté. Mais pour le reste, ça existe. Bon. Et notamment, je pense à ces associations de banlieue qui, justement, cherchent à former des élites, issues aussi des quartiers défavorisés. Ça me paraît très important. Je n'ai pas le nom d'une association en tête, mais il y en a plusieurs de ce type-là. Donc, il y a ces associations. Je dirais que les métiers de santé. Les métiers de santé, vous êtes confrontés à la limite. Vous êtes confrontés à la vie, à la mort, d'une certaine façon. Vous êtes confrontés aussi à des liens de compassion. Vous n'êtes pas dans cette bulle gentillette, gnangnan, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, comme avait dit un jour Jean-Yann à propos des médias. Il avait très bien décrit ce milieu médiatique. Vous avez aussi des responsables d'entreprises, de PME, qui sont confrontés tous les jours. Vous avez ces ouvriers qui travaillent. Donc vous avez des ressources, et des scientifiques et des techniciens, vous avez des ressources internes. La question, c'est que ces ressources internes sont complètement émiettées, ne forment pas aujourd'hui un conglomérat débouchant sur une nouvelle dynamique historique, et elles n'ont pas massivement les relais qu'ont eu, si vous voulez, j'allais dire, le gauchisme culturel post-68ard et les nouvelles couches moyennes issues de l'héritage impossible de mai. Et que là aussi, on voit bien que la dynamique de mai, elle est épuisée, c'est fini, c'est derrière, ça continue un peu dronronné, parce qu'on les entend encore tous les jours. Enfin, il faudrait prendre les types de médias. Écoutez, moi, quand j'entends certains médias, j'ai l'impression d'entendre des militants, ce n'est même plus des journalistes. Mais le problème, c'est un peu, si vous voulez, comme le chaudron d'Astérix et d'Obélix. Obélix, il est né dans le chaudron. Et il y a maintenant des journalistes médiatiques de gauche qui sont nés dans le chaudron, donc ils ne se rendent même pas compte que ce qu'ils disent ne va pas de soi. Parce que pour eux, il n'y a pas d'extérieur à leur discours. Ça, c'est un véritable défi. Et moi, j'ai vu ça en discutant avec eux. Mais pourquoi? Ah bon? Mais quel est le problème? Vous voyez, ça, c'est très désorientant. Et je vois aussi le problème. Vous prenez l'homoparentalité, pour prendre un exemple. Il y a très peu de débats de fond. Très peu de débats de fond sur l'anthropologie que ça suppose. Et où est le problème? Et ça, c'est très désorienté. Donc, on a eu affaire à cette hégémonie culturelle. Cette hégémonie culturelle se lézarde. On voit des points. Bon, c'est encore insuffisant, etc. On voit bien comment la gauche peut essayer de repartir dessus, mais on voit bien que la dynamique est épuisée depuis longtemps. Et par contre, ce tissu sociétal, eh bien, il ne fait pas encore dynamique, mais il est là. Et on devrait relayer ces initiatives. Dans le champ politique, il y a des hommes et des femmes politiques qui sont, enfin, ils sont rares, précieux, mais rares, mais peut-être précieux, qui sont en dehors de cette logique prédominante de la communication, où la communication dissout, finit par dissoudre les significations, les convictions. On a des produits où on se demande, qui parlent très bien, etc., mais quelles sont exactement leurs convictions, quels sont leurs projets. Et à la limite, on va tomber sur le postmoderne dont vous parliez tout à l'heure, mais est-ce qu'il en faut vraiment un ? La politique postmoderne, c'est de faire au mieux avec, en faisant... Moi, je fais là aussi, dans le domaine politique, le pari que d'un point de vue démocratique, il y a eu progrès, et disons à gauche, parce que la gauche était au pouvoir, elle a appris aussi que tout n'est pas possible, qu'il y a des gestions, une gestion dans la dimension politique entre des possibles, en tenant compte qu'en démocratie, l'éthique n'est pas celle de la conviction, ça ne suffit pas, et encore moins celle du bon sentiment, c'est l'éthique de responsabilité. Des choix possibles dans une situation que je n'ai pas choisie, donnant lieu à des effets non voulus, dont il faut que j'essaie de maîtriser ces effets dans cette situation. C'est ce que j'appelle l'éthique de responsabilité, évidemment au sens de Weber, qui est inséparable de la dimension démocratique. Donc la gauche, quand elle était au pouvoir, bon gré, mal gré, avec beaucoup de dénégation, a appris ça. On voit très bien qu'elle peut repartir aujourd'hui dans une espèce de démagogie et de repartir. Mais il y a cet apprentissage du réel chez les politiques. Simplement, ce qui manque à la politique aujourd'hui, c'est comment cette gestion, ces réformes, ces propositions de réformes, d'ailleurs faites dans le plus grand chaos, s'inscrivent à la fois dans un creuset humaniste, j'insiste là-dessus, et pour moi républicain, on pourrait discuter de ce qu'on entend république, qui lui confère une signification qui n'est pas simplement « est-ce que vous êtes d'accord avec la mesure dans sa technicité ?» si vous voulez. Hein, c'est important, parce qu'il y a bien une crédibilité de ces mesures en démocratie, mais en même temps, pour qu'elles prennent chair, en quoi elles me resituent dans une histoire, dans un pays, et en quoi elles dessinent un avenir de ce pays où il fasse à la fois bon vivre et donne envie aux citoyens d'aller de l'avant, de s'inscrire dans cette dynamique. Nous l'avons eue, cette dynamique, avec la modernisation de l'après-guerre. Et il se trouve que cette dynamique et le gaullisme, mais la quatrième Mendès, c'était dans cette logique. Nous avions un creuset culturel avec beaucoup de failles, de défauts. Je ne parle pas des guerres coloniales qui avaient lieu en même temps, mais du point de vue du pays, on pouvait entrer en conflit. Et il pouvait être violent, et le communisme, c'était une dissidence par rapport à ça. Mais nous avions un creuset commun. Et nous avions une certaine vision de l'histoire commune, et nous avions surtout une vision de l'avenir positive. Aujourd'hui, nous sommes dans la technicité, dans le compassionnel, dans les victimes, dans la souffrance, dans la réactivité, dans le management, dans l'urgence, avec des choses qui peuvent se discuter sur tel ou tel aspect. La caricature du manager réactif étant, à mon sens, Sarkozy, le président Sarkozy, notamment dans le premier moment de son mandat. Mais nous n'arrivons pas à réinsérer tout ça. Alors là aussi, vous le disiez, deux hypothèses, après tout. Avons-nous vraiment besoin de réinscrire tout ça dans cette histoire pour donner sens ? Et j'ai entendu des gens me dire, ce qui est très désarmant, mais qui mérite aussi d'être confronté, mais ce que vous dites, c'est une affaire de génération. Parce que moi, je suis hors de ce champ-là. C'est encore votre histoire à vous. Personnellement, même si c'est mon histoire à moi, le problème de la transmission, si vous voulez... C'est de savoir, c'est pas simplement est-ce que c'est possible ou pas, c'est savoir à quoi on tient. Et le fond du problème, quand on vous dit ça, moi je dis, mais le problème, je vais te dire, moi je sais à quoi je tiens. Et je pars de l'idée que je tiens à te le dire. Je sais que je ne suis pas maître de ce que tu en feras. Et heureusement, comme dit Hannah Arendt, les générations font du neuf. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'elles font du neuf à partir de quelque chose qui est légué. La figure de Rimbaud chez les Mutins de Panurge aujourd'hui, on oublie que Rimbaud était un but de latin, qu'il avait eu des prix de littérature, etc. On en fait une pure hors-sol, si vous voulez, hein, comme les créateurs artistiques, les surréalistes, qui eux-mêmes étaient un but de tradition, d'une certaine façon. C'était des héritiers. Et l'hypothèse que je fais aussi, c'est que les 68 arts sont des héritiers. Héritiers critiques, héritiers impossibles d'une certaine façon, héritiers quand même. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien ne s'est reconstruit après et qu'ils ont léché un champ de ruines à partir duquel les nouvelles générations étaient amenées à errer dans ce champ de ruines avec une demande en creux de signification, je dis en creux, une demande de signification qu'ils ont du mal à exprimer dans la cohérence. Ça vient par petits bouts, ça vient... Mais cette demande, pour moi, elle est là. Donc je fais le pari que la demande est là, et dans tous les cas, je tiens à transmettre quelque chose, en sachant, encore une fois, non pas pour façonner les jeunes générations, ils en feront ce qu'ils voudront, mais au moins, la chose aura été dite.
Alors je renvoie donc nos auditeurs, et nous allons nous quitter là-dessus, je renvoie nos auditeurs donc à ce livre, qui est un recueil d'articles, mais qui a sa cohérence propre, donc « La gauche à l'épreuve 1968-2011 », donc de Jean-Pierre Le Goff, que je remercie.
Merci à vous.
Non, c'est nous. Et effectivement, dedans, vous verrez à la fois donc, cet élément d'analyse de cette barbarie douce dont nous avons parlé, et puis peut-être ici ou là, de façon peut-être plus impressionniste, ces éléments permettant de retrouver ces réserves d'humanité que vous appelez de vos voeux et qui permettraient d'éviter ce recours au pouvoir fort et autoritaire. Et on a vu avec, par exemple, le dernier livre de Marcel Gauchet, qu'effectivement, la faiblesse de la démocratie peut appeler en creux le retour ou un pouvoir fort. Donc, quitter cela et en revenir à cette ressaisie que vous appelez de vos voeux pour permettre à nos sociétés de reprendre conscience d'elles-mêmes et d'être dans le droit fil de la transmission. Voilà. Allez-y, un dernier mot.
Dernier mot, effectivement, il y a cette possibilité d'une tentation forte, mais je pense qu'on a connu une forme de négation de la démocratie qui a été le totalitarisme. Pour moi, elle est historique et je dirais qu'elle est un peu derrière nous. Les formes de négation nouvelles de la démocratie sont assez inédites. Et je parie aussi sur des formes qui sont de délitement et non pas simplement des formes de négation de la démocratie par des formes d'affaissement et de délitement et pas simplement par des formes anciennement autoritaires telles qu'on les a connues.
Ben merci beaucoup Jean-Pierre Le Goff. Donc je renvoie nos auditeurs à La gauche à l'épreuve 1968-2011 qui vient de sortir. Merci.
Merci.